Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est vraiment le cas de le dire. C'est Plume et Pinceau, l'émission de bande dessinée de Canal B, l'émission consacrée au 9e art.
Voilà.
C'est vrai que qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, c'est vraiment de circonstance.
Ouais,
ce gimmick idiot prend tout son sens.
J'étais à Nantes ce week-end et on m'a dit, il n'y a plus des cordes hein, comme ici, et on m'a dit oui à chaque fois que tu viens. Et ça m'a fait penser, puisqu'on est quand même dans Plume et Pinceau, une émission de bande dessinée, à une de mes histoires préférées d'Astérix le Gaulois, la grande époque, c'est le Devin.
Mmh.
Et vous savez...
Il arrive dans la tempête.
Ouais, dans l'orage, l'histoire commence et tout. Et il y a tout un délire sur les dieux, tu vois, il y a les Gaulois qui causent, oui, machin, Taranis est en colère, Taranis, dieu des orages, etc. Oui, mais peut-être que tel autre dieu peut lui couper l'herbe sous le pied. Et il y en a un qui dit, à moins qu'Amora ne vienne l'énerver. Et en fait, Amora, c'est une référence naturellement
sûr,
à la fameuse
moutarde.
De moutarde que tout le monde connaît. Et comment il y a Obélix qui dit Astérix, Amora, je connais pas. Et Astérix, au lieu de dire que c'est des conneries, tu sais, on a beaucoup de dieux, celui-là n'a pas été encore référencé.
Moi, ouais, ça me fait penser à un Blake et Mortimer, SOS Météo.
Ouais, tout à fait, c'est un peu la même. Ouais, ouais, on peut retrouver la météo que l'on connaît actuellement à travers la bande dessinée, le Devin. Et il y a un truc aussi génial dans le Devin, c'est que vous savez, tout le monde, quand ils sont en colère ou ils le chopent par sa tunique. Et...
Oui.
Et le dessin du Derzo magnifique montre, vous savez, après, il a sa tunique qui est toute fripée, puis il est obligé de retirer sur son froc. Et il dit, j'en ai marre, j'aimerais bien, à un moment donné, il est dans le camp romain, il dit, j'aimerais bien, on arrête de me tirer sur la tunique. Et il y a une espèce de Romain demeuré à qui il a fait croire qu'il allait devenir César qui leur chante. En fait,
vous l'avez compris, une émission consacrée à la bande dessinée,
voilà.
Que des chroniques et quelques news, parce que tonton Roger a toujours des trucs à dire.
Voilà.
Et puis de la musique. Allez, on embarque avec Kevin Morby, une ambiance un peu cow-boy.
I once loved a boy so smart and true. We would walk home every day from the school. He'd say, I think we could walk forever. Oh no, have it just a little while. Okay, he would make me laugh like the devil. Ha ha, he would pick me up like the child that I was. In my time, I'd like to stay young forever. Like a tide that crests burning sunny weather. May we fill these lungs with laughter.
Ha ha.
And may we shake these bones with style.
Watch.
And may we claim all that we're after.
Everything.
And may we do it wearing a smile. And may the breath we breathe be free. And for you to remain a part of me. Apart at different stations, and some of them look the same, but none of them smell the same, and some of them will never change, while some of them are growing strange, and some of them are center stage, while some of them don't turn my page, and some are rain golden pain. Some tears eat with rain. Oh, but all of them are aboard my train. But all of them are a friend of mine. And oh, my darling, can't you see?
Bob Dylan quand même dans ce morceau. Très américain, très américain. Kevin Morby, Aboard My Train.
C'est pas mal, pas mal avec le temps qu'il fait, tout ça.
Ouais, je sais pas, ça collait bien. Alors, tonton Roger a toujours quelque chose à dire, c'est plus fort que lui.
Voilà, ciné mensuel ne doit pas mourir. On va commencer par ça. Ciné mensuel.
C'est déjà le deuxième tour ?
C'est chaud du cul. Les finances de ciné mensuel, donc mensuel, comme son nom l'indique, un journal. Alors, on n'est plus dans. On ne peut pas parler d'un journal satirique, on va dire d'un journal résolument à gauche, certes, avec des articles, de l'investigation, des chroniques. On trouve comment Isabelle Alonso, on trouve comment parfois Guillaume Meurice, etc. Et tous ces gens-là sont reliés à la mémoire, quelque part, d'un monsieur qui s'appelait Ciné, dont j'ai déjà souvent parlé, éminemment dessinateur de presse des années 60, 70, 80, 90, etc. Il travaillait chez Charlie Hebdo, il avait été honteusement viré pour antisémitisme, tiens, déjà. Ouais. Et pour se défendre, il avait gagné, naturellement, ce procès en antisémitisme, même ils avaient fait. Donc il avait gagné en première instance, gagné en appel, gagné en cassation, et après ça tournait. Le but du jeu, c'était de le faire crever, en fait, le père Ciné. Et il a tenu, et parallèlement à ça, il a d'abord sorti un journal dès qu'il a quitté Charlie Hebdo qui s'appelait Ciné Hebdo, et ce journal était passé d'hebdo à mensuel. Mais malheureusement, vous connaissez, comme tout le monde, les effets de la désaffection, on va dire, du grand public pour le papier. Et effectivement, un journal comme Ciné Mensuel est sur le point de crever. Le numéro que j'ai là de juin 2024 risque d'être l'avant-dernier, d'après ce que j'ai dit, d'après ce que j'ai lu dans différents articles. Et donc Ciné tient. Alors on trouve quand même des gens superbes dans Ciné Mensuel. Parce que pourquoi je parle de Ciné Mensuel ? Parce qu'il n'y a pas que du texte, il y a aussi naturellement des dessins, et énormément de dessins de presse. Et vous savez, connaissez mon goût pour le dessin de presse. On trouve
la polémique.
Voilà, et la polémique. On trouve des anciens comme Monsieur.
Il y a l'indingue, je crois.
Il y a l'indingue, des anciens comme la Serpe, par exemple, qui officie depuis très longtemps. Et puis, il y a des nouveaux, par exemple, il y a un monsieur dont je suis fan du travail, Pac-Man. Très, très stylisé. Il a le droit à la couverture de temps en temps. C'est fantastique, le travail de Monsieur Pac-Man, dont vous citiez Monsieur Lindingre tout à l'heure. On trouve également Monsieur Gio, un ancien Berthe, B-E-R-T-H, des vieux, ça qu'on retrouvait dans Le Psychopathe. On retrouve également Sof, qui officie dans Le Canard Enchaîné. On a LB. Il signe LB, c'est un nouveau aussi, c'est un petit nouveau, très très bien, très expressif, très très expressif, que je ne connaissais pas. Museau, qui n'a rien à voir avec le compagnon Placide. J.O., je vous ai dit tout à l'heure, etc. etc. Donc plein d'auteurs, plein de chroniqueurs. Jean-Marie Le Claftine, j'adore. On retrouve le vieux Berroyer, Jackie Berroyer, Florence Estac a rejoint l'équipe. Bref, pour tous ceux, et un autre excellent aussi, Rémi Malingret, vous avez vu, je n'ai fait que feuilleter le numéro de juin.
Dites-moi, du coup, il lance un appel à l'aide dans ce numéro-là ?
Oui, pas seulement dans ce numéro-là, mais à travers les réseaux sociaux, la presse, effectivement. Ils ont prévenu que Ciné Mensuel était au bord du...
Parce que le titre de l'épisode, enfin du numéro, c'est « Aide à mourir ». Je pensais que c'était une référence à la loi. Enfin, évoquait la situation du journal en lui-même.
Ça aurait pu.
D'accord.
Et ça le peut peut-être, dans l'esprit tourmenté de M. Rémi Malingret, aller savoir.
Ouais,
j'adore le dessin de
Je me demande ce que va advenir de cette loi, tiens.
Et donc voilà, on ne sait. Ah bah la loi, là, c'est fini, c'est mort. Puisque,
bah oui, elle est en stand-by, là.
Voilà. Et comment la presse libre doit vivre. Alors il nous reste d'autres choses. Il nous reste d'autres choses, vous allez dire, les jeunes. Il reste Instagram. Sauf que moi, je vous ai déjà donné les noms de gens qu'il faut regarder, dont il faut découvrir le travail de l'humour.
Trop tard, vous êtes fiché maintenant. Si t'as été consulté, t'es fiché.
Comment dirais-je ? Vous savez...
Tous vos affreux, là, qu'on pue dedans, des trucs comme ça, là.
Voilà, et notamment, pour parler de la politique d'aujourd'hui, il y a, par exemple, moi je suis M. The Souls, autrement dit Thibaut Soulcier, qui fait également de la bande dessinée, qu'on peut retrouver dans Le Canard Enchaîné, dans Fluide Glacial, qui a fait d'excellentes BD sur la vie quotidienne des super Super Héros en compagnie de Monsieur Bernstein, s'il vous plaît. Et mon chouchou, alors c'est vrai que les autres ne soient pas jaloux, j'adore le travail de tout le monde, mais le plus terrible, c'est Rémi Cattelin. Et Rémi Cattelin, je suis mort de rire. Pour symboliser de manière métaphorique la situation de la France populaire, de l'Alliance, comment dirais-je, Front Populaire, c'est bien, moi, nous sommes tout à fait, moi je suis tout à fait en faveur de cette alliance, sauf que il y a une inconnue, c'est le père Lamélange. Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va faire, par ses déclarations bizarres, imploser, comment dirais-je? C'est très très dangereux. Et Monsieur Rémi Cattelin résume l'affaire, il a dessiné un Mélange avec une tête pas aimable au milieu d'un magasin de porcelaine. Et c'est énorme, parce qu'on voit toute la fragilité de tous les vins, et c'est marqué une nouvelle alliance. Vous voyez,
ça peut faire gaffe, hein, et les filles sont pointilleuses sur les dessins de presse, hein, n'oublie pas. Hein.
Ouais, bah la
Coco s'en souvient.
Ouais. Et j'ai trouvé ce dessin-là, un autre dessin, comment dirais-je, après le deuxième tour, le premier tour, enfin pas le premier tour, avec un tour pour les européennes. Mm. Vous savez, l'opposition, pour résumer, l'opposition entre les villes dans les campagnes où on vote Front National, et les villes où, eh bien, on vote à gauche. Par exemple, à Rennes, si on toute gauche confondue, c'est 60%, quoi. L'affreux Bordello ne fait pas 10, quoi. C'est incroyable. Et il imite son dessin. Il imagine une espèce de petite cité en haut duquel il y a un bonhomme et une bonne femme. Ils crachent sur des vilains qui sont à la campagne, qui ressemblent à rien, qui ramassent des vieux navets tout pourris. Et dans la ville, on voit université, hôpitaux, école, aéroport, travail. Et là, dans la campagne, il n'y a rien, c'est le désert, avec des lignes à la Cardon, et on voit les bourgeois de ville qui crachent sur les gens de la campagne. Monsieur Rémi Cattelin n'est pas assez mis en avant. Je pense que c'est effectivement une personne dont je vous invite toutes et tous à découvrir le dessin. Vous tapez Rémi Cattelin, vous allez sur Instagram, et dépêchez-vous, parce que Instagram, et j'aurais plus rien à dire après, hein, mon bon Erwan, mais sur Instagram, on a un souci. Vous savez qu'Instagram, ça appartient au groupe Meta. Nous sommes bien d'accord.
Yep.
Or, le problème de, comment dirais-je, du groupe Meta, c'est qu'il fait un peu ce qu'il veut. Et ils auraient décidé, alors j'en ai parlé à un auteur, j'ai eu Laurent Lefebvre au téléphone l'autre jour, je lui en ai parlé, il me dit « Ah Lionel, c'est pas encore très clair toute cette histoire-là et tout ». Bref, il semblerait que Meta décide qu'à partir du moment où vous publiez un dessin sur votre fil Instagram, à la limite ils peuvent le reprendre, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ça leur appartient.
Ah oui, là ça te prive de tes droits d'auteur.
Bah un petit peu, ouais. Même beaucoup,
ou de ta propriété intellectuelle au minimum.
Voilà, d'où la réaction d'un dessinateur que vous connaissez comme moi, parce que nous l'avons interviewé il y a longtemps. Hein. Il était jeune, arrivé en culotte courte, comment dirais-je, à Quai des Bulles, Monsieur Fred, qui n'a rien à voir avec le vieux Fred moustachu, pour une histoire terrible d'abus sexuels. Vous vous rappelez pas?
Alfred.
Ouais.
Alfred, pas Fred.
Alfred, pardon.
Oui, qui était dessinateur ou scénariste, je ne sais plus.
Dessinateur, il est aussi scénariste aussi, parfois.
Pourquoi j'ai tué mon père, il avait fait un truc comme ça.
Ouais. Il explique sur Instagram pourquoi il a décidé de clôturer son compte Instagram et pourquoi il a décidé d'aller sur Cara. Cara versus Instagram, les artistes de comics face aux politiques d'IA des réseaux sociaux. J'ai shippé ça sur Comics Blog. La question revient, alors je vous lis, hein, je suis désolé, mais je ne peux pas dire de conneries, parce qu'après, il dit Roger, il dit des conneries. Vous voyez, on est quand même dans un monde maintenant, où dès que vous êtes de gauche, vous votez Front Populaire, vous êtes forcément antisémite. Vous voyez, c'est une espèce d'inversion des valeurs. Alors, je cite, pas mes sources,
Les temps sont flous.
Ouais. La question revient de plus en plus fréquemment. Quelle attitude adopter face à la progression de l'intelligence artificielle dans les secteurs artistiques? La perspective de voir l'IA remplacer l'essentiel de l'emploi n'est plus considérée comme une idée farfelue. D'autant qu'en plus, il y a cette histoire, je vous dis, de piquage des droits des dessins des auteurs. D'où la réaction de Fred. D'Alfred, pardon, oh non, Dieu, de fermer et de s'exprimer sur Cara. Alors, j'ai pas eu le temps de voir dessus. Laurent, à qui j'ai posé des questions, m'a dit qu'il n'avait pas été voir non plus. Qui semblerait être une alternative à Instagram pour pouvoir publier des choses sans que l'on vous dépouille de vos droits et au sein de laquelle il aurait une certaine éthique qui voudrait que l'intelligence artificielle soit quand même bannie. Voilà. Comme quoi, hein? Toujours quelque chose à dire.
Ouais, non, mais je dis pas que c'est inintéressant ce que vous dites, Roger.
Ah bah merci.
Au contraire, bien au contraire. Interlude musicale.
Yes.
Programmation à Roger. Tiens, un truc un peu, ouais, qui va nous redonner un peu la patate.
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, ay. Everybody sour like a lemon tree. I'm just smiling down upon my enemies. Do the shit I love it on a daily. Say you hate your job, but you'll never leave, never leave. But that ain't gonna be me, that ain't gonna be me. My brother called me up, said he saw me on TV. I said it wasn't easy, but right now I'm living breezy. Build this engine from the ground up, now my hands they ain't so greasy. Feel me? Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day.
Illuminate my future bright, so thankful for everything. Rejuvenating my inner light as I work hard for all I need. Open arms, embracing life and all of which it gave to me. Hard work, it pays off, I'm happy now, it's paying me. Close my eyes, sometimes I feel as if I float away. I love the life I live and enjoy the ride along the way. I'll make a living out of living, yeah, that's what I say. I got one life to live and I would live no other way.
I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day. Every single day, every single day. Yeah, Van Gogh, my earlobe. I can't hear, I'm here though. I may be a weirdo, but this is my year, yo. My life may be crazy. My lack of the lazy has let me do shit that I love on the daily.
Daily, daily. Get to do the shit I love upon the daily. Daily, daily. Everybody go and live your daydreams up.
Hey, I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. I'm on vacation every single day, 'cause I love my occupation. I'm on vacation every single day, every single day. Every single day, every single day.
Les Dirty Heads de la programmation à Roger. Bravo Roger, c'était swing, c'était
ouais,
chouette.
Et ouais, ça annonce quand même les vacances sous la pluie, les vacances quand même.
Alors la BD que j'ai à vous chroniquer n'est pas rigolote non plus en plus. Je vais rester dans une thématique grisâtre. Les âmes noires, ça s'appelle.
Ouais, oui, ça commence bien.
C'est un album que j'ai découvert grâce à un copain Vincent. Merci à lui. C'est un album sorti chez Dupuis. Alors au scénario, c'est Monsieur Ducoudray. Alors, Monsieur Ducoudray, rappelons que c'est pas n'importe qui. Il avait fait l'anniversaire de Kim Jong-il. Il avait fait l'excellente série...
D'un voyage en Tchétchénie. Comment que ça s'appelait?
Oui,
ça
avec Anne-Laure au dessin. Ouais. C'était... Comment ça s'appelait?
Grozny, ça s'appelait pas mal. Grozny, tout simplement. Je ne sais plus.
Non. Amer-Russie.
Amer-Russie.
Amer-Russie, parce que moi je pensais qu'il était aussi sur The Grocery, c'était lui le scénariste, il a fait des Doggy Bags, Gueule d'amour, il a fait vraiment plein de choses, c'est un très bon scénariste, j'avoue. Et là il vient avec une histoire, mais vraiment super, c'est pas une histoire en plus, c'est une espèce de polar social, et en même temps une espèce de reportage sur la Chine, en fait, sur la Chine, mais tu sais, la Chine de l'intérieur des terres. Tout tourne autour, en fait, d'une espèce de trafic de charbon.
Ah ouais, quand même.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on va suivre un conducteur qu'on surnomme le flingueur, parce que lui, il est tout seul dans son camion, il veut personne d'autre dans son camion que lui, alors que d'habitude, ils sont à plusieurs, parce que, ben, comme tout, c'est un fric un peu illégal, c'est un peu coup de pute sur coup de pute, et chacun lutte pour gagner ses yuan. Donc, mais lui, il se défend avec un flingue. Il a un flingue, paraît-il, enfin, c'est la rumeur, il a un flingue, etc. Il n'a pas de copilote, et il ne faut pas le chercher, quoi. Donc lui, tu t'aperçois que grâce à des pots de vin, etc., il rentre dans les mines de charbon, ils se font charger leur camion et après ils vont le vendre, tu sais, à des petits entrepreneurs qui ont des entreprises un peu pourraves comme ça dans la campagne. On est dans un monde vraiment hyper gris. Le dessin est gris.
C'est de qui le dessin, vous êtes
Druard, un Belge que je connaissais pas. Je me suis un peu renseigné sur lui. Il a l'air d'avoir des belles roues flaquettes, Roger.
Ah,
il vous plairait.
Un élégant, là.
Un élégant, exactement. Et là, il a un dessin réaliste et il colorise aussi et c'est vraiment très plombant parce que tu vois, t'es dans une terre grise, vraiment grise. Et puis c'est des Chinois qui luttent pour leur survie, pour gagner quelques yuan. Donc ils sont habillés en gris, les coupes de cheveux sont improbables. C'est vraiment que de la débrouillardise et du trafic et des coups de pute, quoi. Tout ce monnaie et toutes les perspectives de comment gagner plus d'argent. C'est assez terrible. Donc ce type-là, il transporte pour lui, quoi, du charbon, il gagne sa vie comme ça, il a une femme, une fille, et là, on va lui piquer son camion.
Ah putain.
Voilà, on va lui piquer, il va être victime d'une tentative d'assassinat, alors on saura pourquoi, c'est expliqué, et en fait, il va être laissé pour mort et on lui pique son camion. Et c'est une histoire de vengeance. Parce que dans cette histoire, non seulement le contexte est gris, tu vois, mais c'est aussi finalement un gros polar noir. C'est va-t-il retrouver son agresseur, son camion? Et c'est une vendetta. C'est une vendetta. Donc ça finit dans le sang.
Une question, est-ce qu'il a vraiment un pistolet?
Ah bah ça je vous le dis pas, ça serait spoilé. Ça serait spoilé. Mais le dessin est super efficace, la scène de l'agression où il se fait piquer son planter deux coups de couteau et piquer son camion est vraiment très expressive, c'est vraiment très fort et c'est vraiment passionnant. Alors que tu vois, c'est une petite histoire presque de rien quoi, c'est un type qui se fait piquer son camion. Le récit c'est ça quoi et qui veut le retrouver. Mais il y a vraiment une atmosphère quoi.
Est-ce qu'on arrive à s'identifier au personnage? Parce qu'il a pas l'air sympa, la façon dont vous le présentez.
Il est en même temps, il est gentil parce que il a tout un truc autour d'une corde à sauter qu'il a avec lui aussi, qui voulait ramener sa fille, qui va l'aider, qui va l'aider d'une certaine manière. Il avec des enfants, tu le vois qu'il est là. Parce que il va croiser plein de gosses aussi. Et tu t'aperçois qu'il y a un gamin dans des régions comme ça, c'est pourri, quoi.
Ah bah oui.
C'est pourri. Mais même le paysage, tu sais, c'est un paysage de bouillasse et de mines. C'est vraiment, ils ont réussi à créer une atmosphère, quoi. Pour ce polar social, ça serait Ken Loach mais en gris et en chinois. Tu vois, c'est vraiment passionnant, c'est un super one shot. L'album est paru chez Dupuis, donc Druyard au dessin, vraiment j'aime beaucoup ce qu'il fait, et du coup de Ray, donc au scénario, monsieur bien connu, notamment pour Amère Russie, rappelons-le, on a bugué un petit peu, dessin d'Anne-Laure, je me souviens, une nana très sympa qu'on avait rencontré
à Kédébul.
Qu'on avait soutenu, c'était chez Bambou, je crois.
Ah, je ne sais plus. Vous me posez des questions. Je suis vieux, je ne sais plus.
En tout cas, les âmes noires, je vous conseille vraiment de lire. Alors, certains vont dire, ça date d'il y a quelques, mois, mais Bertrand n'est pas là, donc on s'en fout.
Voilà. On est obligé d'enregistrer à des jours improbables pour être sûr que Bertrand n'est pas là pour nous dire que c'est des vieux trucs. Objectif con. On a marché sur l'absurde, monsieur Klub, édition Roukmout.
Klub, K-L-U-B. Je me souviens, vous avez déjà chroniqué du Klub.
Ouais, j'ai déjà chroniqué du Klub, mais en plus petit format, mais je crois que c'était déjà aux éditions Roukmout. Klub, il fait partie pour moi de la génération des gens dont j'avais découvert le travail, c'est dans Le Psychopathe, si je ne dis pas trop de bêtises. Et comment les éditions Roukmout lui ouvrent grand ses rayons pour publier cet album, Objectif Con, on a marché sur l'absurde. Qui résume à sa manière, avec son petit dessin tout rond, très rigolo, très, très coloré, l'absurde de notre existence et surtout le mur dans lequel on le va directement. Alors, C'est vrai que, de toute façon, vous êtes prévenu de la couverture. Hein. On voit des martiens tels qu'on pourrait se les imaginer, enfin, en tout cas des extraterrestres, tout verts, avec des oreilles en forme de trompette. Et il y a...
Très luste cru.
Ouais, et on voit dans de l'ombre, dans une espèce de musée, des personnages terriens qui sont figés dans une espèce d'ambre transparente. Et on voit tout ce qui nous empêche de considérer que la vie pourrait... Enfin, de faire en sorte que la vie pourrait être toujours un dimanche. Un putain de barbu ayatollah, un capitaliste égoïste, un taliban ou un terroriste, on va dire, puisqu'on voit des bateaux explosifs, un militaire, on pourrait mettre militaire, flic, etc., machin, dans tout ça, et pour finir, un militant bien ras du front d'extrême droite. Voilà.
Ouais.
Et le papa martien dit à ses petits, cette espèce redoutable a régné durant des siècles sur la Terre, espèce de gros con. Voilà. Mmh. Et à travers toute une série de petites histoires, en une ou deux pages, eh bien, Klum nous rappelle qu'effectivement, nous sommes des gros cons et que si ça en finit par disparaître, eh bien, on ne l'aura pas tout à fait volé. Alors, c'est difficile hein, de raconter une histoire du Klum, ça serait la massacrer.
C'est des histoires en une planche ?
Ouais, des histoires en une planche. Ça serait, alors on y au niveau du trait, on pourrait dire qu'on a du Erdika, mais un peu trash, en plus court.
Soupçon de la mingre.
Ouais, peut-être un peu petit aussi. Soupçon de la... Ouais, mais sans les nez de cochon. Mais les personnages sont bien vilains, très expressifs. Et Dieu aussi, il a des comptes à rendre avec Dieu. On voit souvent Dieu intervenir, parce que Dieu porte un peu la responsabilité de nous avoir mis sur Terre, quand même, quelque part.
Odin est un adolescent de 15 ans.
Ouais, donc que faire de cette sale engeance ? Et on adore aussi, dès qu'on ouvre la couverture, ce tableau de personnages que l'on retrouvera dans l'album, Dieu, je disais tout à l'heure, l'éternel féminin, le militaire américain, le taliban, etc., à travers des portraits, vous savez, comme on peut trouver les anciennes éditions Casterman à propos de Tintin, vous savez, le bleu ciel avec tous les différents tableaux avec différents personnages.
Ouais, ouais.
Objectif con avec Monsieur Klum, il pleut, le Front National est aux portes du pouvoir, ne mourrez pas sans auparavant, vous êtes une dernière voix fendue la gueule, et puis ça vous rappellera aussi pourquoi nous sommes dans la merde, ce que Monsieur Klum se fait un devoir de nous rappeler. C'est aux éditions Roukmout. Alors, je vous entends déjà dire, oui, mais les libraires, ils n'ont pas forcément... Vous pouvez les obliger. Si vous ne savez pas, nous, on sait des tas de choses sur des tas de libraires en ville. Vous nous écrivez, vous nous téléphonez, et ils seront obligés d'avoir les éditions Roukmout dans leur rayon. Éditions Roukmout, pareil, ça non plus, ça ne doit pas disparaître.
Et on ne dit pas ça parce qu'ils nous ont envoyé un briquet une fois.
Alors, c'était grâce à Monsieur Bernstein. Deux briquets, on a eu avec les éditions Roukmout, c'est vrai. Que Dieu leur en soit donné. Et vous savez quoi? Il m'en reste encore un dont je garde précieusement la flamme.
Le mien, ça, la pierre a pété.
Ah putain.
Niqué. Interlude musical?
Yes.
Johnny Carwash.
Ouais.
toute la candeur et l'enthousiasme de Johnny Carwash dans ce morceau. Haha, it's okay. Excellente 15... première partie de Bodega.
15 ans avec un jury complet.
Mais non, mais ta, vous êtes tordu, vous êtes tordu.
on verra ce qu'en dira le juge.
Undead Girl, Murder Farce.
Est-ce que vous pouvez nous le redire que je le copie
Undead
dans le
Undead Girl, Murder Farce. C'est l'adaptation d'un roman de Yugo Aosaki. Oh, j'ai eu du mal à le dire celui-là. Un écrivain japonais qui sert de scénariste donc à ce manga dessiné par Haruka Tomayoyama. Alors, c'est au départ, c'est un peu surprenant et en fait, j'ai beaucoup accroché. Donc tu vas suivre tu vas te retrouver dans la ville de Givre. C'est une ville qui ressemble beaucoup à l'Europe du 19e, un peu mondaine. Et Anna Godard, l'épouse du comte du coin, a été assassinée. Et ce comte, c'est pas n'importe qui, parce que c'est un vampire. Mais un vampire qui a fait son coming out. C'est un vampire pacifié, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, il vit parmi les humains. Il se débrouille, il a promis, il s'est engagé, il boira pas de sang humain. Donc il a trouvé des substituts animaliers, etc. etc. Ouais. Et il vit parmi les hommes, quoi. Il est tout à fait intégré. Il habite un château, Vague de Folie, s'appelle le château. Et sa femme est assassinée, et avec un puits en argent. Donc on suspecte, et bien évidemment, un chasseur de vampires qui n'accepte pas l'espèce d'accord qui a été trouvé entre le monde vampirique et le monde humain, justement cette cohabitation, quoi. Donc tu vois, il y a une petite dimension aussi d'intolérance, petit thème de l'intolérance qui apparaît. Et donc ce meurtre, comme la police locale elle a un peu de s'en foutre, il fait appel à des inspecteurs qui arrivent du Japon. Alors c'est pas n'importe qui. En fait, c'est ce trio, parce qu'il faut pas dire que c'est un trio, qui est intrigant. Il y a d'abord une espèce de servante en tenue de soubrette, mais qui a l'air mais pas très sympathique, un peu rigide, et tu sens que elle démarre au quart de tour, etc.
Un peu sexy, un peu soubrette.
Bien sûr, un petit peu sexy, bien sûr. Un jeune homme avec une espèce de balafre sur glace qui porte une cage à oiseaux recouverte avec un petit drap. C'est vraiment les cages à oiseaux à l'ancienne. Et à l'intérieur, il y a une voix qui est dans la cage à oiseaux. Bien sûr, c'est le troisième membre de ce trio d'inspecteurs. Et ça a l'air d'être l'esprit vraiment qui pense. Ça a l'air d'être le Sherlock Holmes, tu vois. En fait, l'autre lui sert vraiment le garçon lui sert vraiment presque de porteur, quoi. Bon, après, il a des talents qu'on va découvrir. Enfin, chacun a des espèces de talents. Il y a notamment ce mystère autour de cette, comment dirais-je, de cette, de la créature, on va dire ça comme ça, qui est dans
parce
la cage. Parce qu'on la voit pas. Il faut attendre un petit peu avant de la voir. Et tu as une enquête policière. Et tu vois, c'est un mélange très curieux parce qu'il y a un côté un peu gothique, un peu de monde du vampire, un peu de policier à la Agatha Christie parce que c'est une espèce de Sherlock Holmes, c'est-à-dire tout est dans la déduction vraiment, observation, déduction, etc., etc. Et ce milieu 19e, c'est vraiment un maelstrom d'influence et ça, la sauce marche plutôt bien. Au début, t'es un peu déconcerté, mais la sauce marche super bien, plutôt bien. Et j'aime beaucoup le dessin, en fait. Je trouve que c'est un dessin vraiment très ciselé, très en finesse, où justement le dessinateur, il a un truc qui moi me fascine, il joue vraiment avec les aplats blancs en fait. Vraiment, t'as l'impression qu'il a fait des tout petits traits, comme s'il taillait un petit peu une espèce de grande plan, je sais pas, un truc de marbre, et juste avec ses incisions comme ça, et t'as des grands espaces blancs qui apparaissent, et ouais, il joue avec des aplats blancs. Alors très souvent, on voit plutôt des aplats noirs, tu sais, il a cette espèce de regard un peu différent, un peu curieux, qui a des super effets par moment, vraiment très réussi sur certaines pages, parce qu'il joue vachement sur les cadrages. Et vraiment, le duo rend un super travail. C'est un petit manga, ça coûte pas cher. Je sais pas combien de tomes va y avoir, mais moi, franchement, j'ai accroché à cette histoire de Undead Girl Murder Farce.
Par contre, vous avez pas dit chez qui c'est.
Si je me trompe pas, c'est chez Panini Manga. Voilà, ça coûte moins de 10 balles, ces trucs-là. Un peu de thriller, un peu de fantastique, un peu d'enquête. Un trio d'inspecteurs, ma foi, fort originaux. Et puis, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette petite cage qui fait un peu le logo, d'ailleurs. Yugo Aosaki, au scénario, et Haruka Tomoyama, au dessin. C'est compliqué, les noms japonais, quand même, on a beau dire.
Moi, je dis plus rien. Déjà qu'on dit que je suis antisémite, alors...
C'est votre tour, mon bon Roger.
Yes, alors moi, on va revenir quelque part à la chanson, comment dirais-je, que vous avez passée tout
okay.
à l'heure. comment pouvait faire quelque part référence dans son côté léger. Hein. Je ne parle pas du côté tordu pour lequel vous l'avez choisi, vous. Mais tu vois, c'est cette petite voix légère. On peut penser à un amour frais, sympa, etc. Et c'est ce qu'on le retrouve à travers les vacances de Monsieur Léon. Les vacances de Monsieur Léon, nous avions eu la chance de rencontrer Monsieur Julien Solé lors du dernier Quai des Bulles, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, parce que c'était déjà le premier tome qui sortait. Voilà que sort le deuxième tome avant les vacances, ça tombe bien. Et dans ce premier tome, nous découvrions un petit monsieur qui avait, quelque part pour moi, c'est un peu un espèce de super-héros du quotidien, dans la mesure où, par la magie du dessin, de la couleur, etc., eh bien, le personnage, lui, il est toujours dans un univers coloré, alors qu'il évolue dans son monde réel, dans notre monde à nous, c'est-à-dire un monde bien gris, le métro, tout est pourrave, tout est bien, bien craignos, sauf Monsieur Léon. Et Monsieur Léon est amoureux transi de sa colocataire, Mademoiselle Sophie. Alors avant, Mademoiselle Sophie, ce n'était pas sa colocataire, c'était sa voisine. Et c'est au cours
De leurs aventures,
si on peut dire. Ouais, c'est des aventures, ils ne mettent pas en péril la planète, on va dire. Eh bien, ces aventures de la normalité, ils deviennent colocataires. C'est très, très mignon.
Le clin d'œil aux vacances de Monsieur Hulot n'est pas, à mon avis, anodin. Le personnage est charmant pour, effectivement, sa candeur, sa naïveté. Ouais. C'est vrai qu'il irait bien avec le morceau de Johnny Carwa, je vois ce que vous voulez dire. Il est poétique.
Et puis voilà que son pote, en début d'album, lui dit il faut conclure, quoi. Il faut conclure. Maintenant, elle est colocataire et tout, il faut conclure. Mais Monsieur Léon, il ne sait pas faire. Il sait pas. Alors, tu as son petit un voyage à l'étranger, ça serait bien. Et rien que le fait d'aller acheter des billets pour un voyage, de billets d'avion, pour aller dans une destination que l'on espère exotique et puis loin du monde gris dans lequel nos héros évoluent, eh bien, ça va déclencher tout un tas de trucs zarbi, catastrophes, etc. Et on tremble pour monsieur, parce que moi, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, ça doit être l'âge. Je croyais qu'avec l'âge, je serais devenu façon Céline, cynique, mauvais, entouré de chats, de chats mal élevés. Mais non, moi, comment j'ai lu cet ouvrage d'une traite et je flippais parce que tu te dis, mais Monsieur Léon, ça va foirer, il arrive plein de choses, va intervenir une course-poursuite en taxi et l'intervention d'un chauffeur de taxi qu'on va voir après plusieurs fois dans l'histoire. Et il n'y a rien de mieux que Julien Solé pour créer des trognes et des univers, quoi. On y croit tout de suite, quoi. Alors c'est vrai que à chaque fois qu'on le rencontre, je dis, oui, vous avez tué comme au Cosmique Roger, on ne vous le pardonnera jamais, certes, mais son talent est toujours là, et la trogne du chauffeur de taxi, les répliques du chauffeur de taxi, toute cette histoire que l'on noie, par contre, cette fois-ci, comme la précédente, d'ailleurs, à Arnaud Le Gouéfec, qui est, lui, un multipasse, on dirait, de la culture. C'est le genre de personne, il sait tout faire. Est-ce qu'il dort? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né à Brest en 1974, mais qu'il s'exprime comme scénariste, romancier, chanteur et autocompositeur, comment marqué par une culture très psychédélique des années 60-70, normal. Il avait peut-être un grand frère avant. Eh bien, il s'est déjà commis dans une vingtaine d'albums de bande dessinée, dont le chanteur sans nom, et J'aurais ta peau, Dominique A. Il y avait Soucoupe aussi, excellent. Le frère de Göring, Lino Ventura, Face B, Underground, Tati et le film sans fin, et naturellement l'excellent Mondo Reverso avec Dominique Bertheil. Et maintenant Monsieur Léon aux côtés de Julien Solé. C'est marrant de parler de les vacances de Monsieur Hulot ou de Monsieur Hulot. C'est pareil, on retrouve effectivement cette espèce de, on a l'impression d'avoir un air d'accordéon,
d'innocence.
Ouais, quand on suit les aventures de Monsieur Léon, on entend l'accordéon, le voit, puis va à la foire du trône. Moi, j'adorais vous rappeler les tirettes où c'était plaisir d'offrir, joie de recevoir. Eh bien, Julien Solé nous en offre une belle. Et il appelle ça plaisir d'offrir. Vous savez, regardez quand on tirait des merdes dans des espèces de petits cartons, des espèces d'araignées, soi-disant qui faisaient peur aux filles. Bref, on retrouve tout ça dans cette histoire, c'est superbe. Et encore une fois, moi j'ai décidé, chers auditrices et auditeurs, dans ce monde où il a décidé que, entre la Picardie du Nord et jusqu'à la juste frange de la Côte d'Azur, il va pleuvoir tout l'été. Et nous aurons même peut-être le Front National. Réfugiez-vous chez Monsieur Léon dans un univers fait de douceur, d'humour, de bonté, de générosité. Bref, le monde dans lequel on voudrait vivre. Tiens, vous savez quoi? L'accordéon est peut-être un petit côté franc populaire.
8 Rounds Rapid, le morceau s'appelle Channel Swimmer.
Rock'n'roll de la programmation à Tonton Roger. Ça dessoude, hein. Ça dessoude, mais c'était efficace.
Alors, je sens déjà que vous allez... je vais vous faire rencontrer une petite fille pas comme les autres. Lancée comme ça, ça vous interpelle tout de suite.
Moi, je vois la couverture.
Est-ce que tu connais Apocaline? Elle est belle, la couverture.
Moi,
reconnais.
Dieu merci, comment dirais-je, la police ne voit pas la couverture.
C'est des éditions de Chao, donc je suis tout excusé. Apocaline, c'est la nouvelle découverte des éditions de la collection Chao, paru chez Glénat. C'est le tome 1, un câlin d'enfer. Alors, c'est commis par Romain Pujol au scénario et vraiment très joliment dessiné par Saïd Sassine. On nous propose quoi? Alors, on nous propose en fait de découvrir une petite fille, Apocaline, qui est une petite fille, c'est la fille du terrible Satan en fait. Elle a grandi en enfer, dans le mal, etc. Vraiment, elle est destinée à être une créature maléfique. Son papa la prédestine à ça, hein. Tu sens qu'il y a l'idée de reprendre l'entreprise familiale qui est quand même au bout du jeu. Mais c'est une petite fille et elle ne rêve que de câlins et d'avoir de nouveaux copains. Et c'est donc les histoires, les aventures d'Apocaline qui essaye de se trouver, de se trouver des amis. Alors elle va rencontrer plusieurs personnes. Par exemple, il y a un loup que tu aperçois en bas de l'image, de la couverture là, qui s'appelle Casse-cou. Elle a aussi un employé plutôt sympa, un espèce de savant un peu fou, Archimède, un ingénieur qui travaille pour Enfer Corporation, l'entreprise du papa. Voilà, elle va faire d'autres rencontres. Elle cherche l'amitié. Donc c'est des histoires. Pleine de bons sentiments et puis pleine de gags, parce qu'évidemment Apocaline, cette gentille petite fille, fout un peu le bordel en enfer avec sa gentillesse, à rêver de doudou, de gros câlins, etc. etc. Ça va causer le désespoir de son papa. Donc c'est plein de blagues comme ça, de planches, de petites planches, une page, un gag. Bien sûr, ça s'adresse à des jeunes lecteurs, mais c'est plutôt très réussi parce que le dessin est très réussi. Franchement, la petite héroïne, Apocaline, je la trouve vraiment très chouette. On la voit en couverture, tu vas piocher vraiment dans Tebo, etc., dans le manga, ce genre de choses. Il y a même une petite allusion à Lamu, finalement, dans cette héroïne. C'est plutôt bien fait, c'est très efficace. Je vois bien que vous êtes en train de faire des associations très douteuses dans votre esprit, mais moi, je vous conseille vraiment, si vous avez des ptios, de céder à Romain Pujol et à Saïd Sassine pour Apocaline, tome 1. Un câlin d'enfer, parce que vraiment c'est très chouette, une belle réussite de la collection Cho des éditions Glénat. Alors, avez-vous encore quelque chose à dire, mon bon Roger ?
Rien à dire après ça, je vais vous laisser. Je tiens à ne pas me mouiller avec, comment dirais-je, avec cette histoire-là.
Ah ouais, d'accord. Bon, bah, vous battez en touche. Du coup, un dernier morceau et puis on va se dire au revoir. Allez, on va retourner en 88, ça va nous faire du bien et on va danser sur du New Order. tout le monde aura, je pense, reconnu New Order et son Blue Monday. Puisqu'il
nous reste plus que de temps, il nous reste, ouais, temps,
il nous reste 4-5 minutes. Si vous voulez, je peux vous parler vite fait de la vie en jeu, parce que c'est un peu dans l'air du temps.
Ouais, allez-y.
Si
ça se tient.
Bah oui, c'est dans l'air du temps, forcément. Églantine Chesneau, au scénario et dessin, nous propose chez Vent d'Ouest la vie en jeu. Leur flamme éclaire l'histoire. En fait, elle nous propose une série de petites biographies d'athlètes qui se sont distingués lors des Jeux Olympiques. 16 athlètes qui ont marqué à jamais l'histoire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et puis en même temps, elle nous propose une petite histoire des Jeux Olympiques, comment Héraclès a eu l'idée, etc. Des Jeux d'Olympie en Grèce antique, et puis toute l'évolution, et puis donc de rencontrer aussi bien, je sais pas, Jesse Owens que Marie-Josée Pérec, Lise Hartel, une cavalière danoise. Donc tu vas découvrir en faire des personnages qui ont on va dire, un moment un peu atypique ou historique dans les Jeux Olympiques. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est plutôt sympa. Le dessin est assez simple. Ça peut être des fois assez bavard, je reconnais, mais elle a essayé de rendre ça assez léger avec des petites blagues.
C'est
tu sais.
Vous avez pas dit par contre qui c'est.
De quoi?
L'autrice, vous avez pas dit.
Églantine Chesneau, si, voilà. Dès le début, mais vous avez pas noté, c'est différent.
Mais non, mais c'est dès que vous dites quelque
chose.
Ah, mais
dès que vous avez plus votre casque, vous n'entendez plus. Donc ça se veut un ouvrage, on va dire, un peu didactique sur des faits réels et en même temps avec une petite touche d'humour. Le portrait de 16 athlètes qui vont donc avoir un moment, on va dire, de gloire dans le cadre des Jeux Olympiques, parce que effectivement, il va se dérouler aussi ça en France. En plus de tout le reste.
C'est chez qui vous, là, vous l'avez pas dit.
Vent d'Ouest, si, je l'ai dit.
C'est vrai.
Mais vous m'écoutez pas, en fait. Vous n'écoutez plus personne.
Non.
Quand vous êtes en Harley Davidson.
Églantine Chesneau, édition Vent d'Ouest, La vie en jeu.
Ouais, effectivement. Voilà, La vie en jeu, leur flamme éclaire l'histoire. Sous-titre, Le destin de ces athlètes. Mon bon Roger. On se retrouve la semaine prochaine.
Yes, tant qu'on a le droit.
Tant qu'on a le droit. Et puis, on espère qu'il y aura un peu de lumière pour égayer.
Est-ce qu'il fera beau, ça, vous voulez vous dire?
J'en sais rien. Bonne lecture.